viennent nous expulser, nous, on revient.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet.
Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité.
Réacteurs EPR.
Ligne à grande vitesse.
Aéroports.
Gaz de schiste.
Et urbanisme galopant.
Rencontrent de plus en plus de résistance.
Mais politiques et entrepreneurs sont têtus.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Nous allons passer un petit moment ensemble autour de la mobilisation contre la construction du deuxième aéroport autour de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. À travers l'entretien réalisé avec 2 militantes, Marlène et Bertille, qui ont participé à cette grosse manifestation du 24 mars 2012, où militants, paysans, résistants sont descendus sur la ville de Nantes. Et elles vont aussi nous parler un petit peu de la vie au jour le jour dans ce territoire occupé pour résister à l'implantation de cet aéroport, bien évidemment totalement inutile. Bon, on est avec Marlène, qui est à Notre-Dame-des-Landes pour cette mobilisation qui dure depuis déjà très très longtemps. Elle va nous expliquer un peu pourquoi il y a des gens qui se mobilisent là-bas.
Alors, c'est une longue histoire parce que cette idée de deuxième aéroport à Nantes date d'il y a déjà 40 ans. Je pourrais pas tout vous sortir, tous les chiffres exacts, tout ça, parce que voilà, j'ai pas tout retenu. Mais ça fait bientôt 40 ans que donc des élus, décideurs, aménageurs se sont dit que l'aéroport actuel à Nantes était un peu trop près de la ville, du foncier peut-être qui valait un peu beaucoup à investir, tout ça. Et ils se sont dit qu'un deuxième aéroport sur 2000 hectares à 25 km dans le bocage au nord-ouest de Nantes, ça serait pas mal. Fin des années 70, le projet a déjà été mis au rebut, malheureusement pas complètement abandonné, mais il y a déjà eu une forte mobilisation citoyenne des habitants du coin, qui, pour la petite histoire, ont en plus appris dans les journaux qu'un deuxième aéroport serait construit là où mangent leurs vaches. Et que du coup, ils se sont un peu réveillés. Et fin des années 70, on s'est un peu rendu compte que ce projet était un peu absurde, complètement gigantesque, pharaonique, tout ce qu'on veut. Et il a été mis au placard. Le problème, c'est qu'il n'a pas été complètement enterré et il a réapparu avec Jean-Marc Ayrault et son grand pote, Monsieur Fillon. Qui, juste après le Grenelle, hein, contre toute attente, pour le développement durable et sauver la planète, il faut construire des aéroports, verts évidemment. Donc voilà, depuis début des années 2000, il y a ce couperet qui pèse donc sur 2000 hectares de bocage, à savoir les bétonner ou pas, pour en faire un deuxième aéroport pour la grande mégalopole Nantes, pour, je sais pas, tout l'Ouest européen, on va dire. Voilà, en gros, le projet. Après, pourquoi ici? Pourquoi un deuxième aéroport? Il y a pas mal de questions et pas mal de réponses. on peut déjà dire que c'est vrai qu'en plus, les arguments pour construire cet aéroport ont évolué pas mal au fil de 40 ans, hein, forcément. Parce que pour faire avaler la pilule, il faut suivre les modes, les tendances. Donc c'est sûr, la tendance du jour, c'est le sécuritaire. Les arguments pour un deuxième aéroport à Nantes, c'est parce que le premier aéroport est très dangereux. Vraiment, il faut le savoir. C'est très dangereux, mais on sait bien que prendre l'avion, c'est dangereux. Mais non, il y a même des comités de pilotes de ligne qui se sont quand même dit « faut arrêter », quoi, qui ont rappelé aux gens que non, ce n'est pas dangereux d'atterrir actuellement dans l'aéroport de Nantes, que c'est un des plus sûrs de France, d'Europe, voire du monde entier. Donc non, l'argument qui tient à cœur de nos chers élus nantais, donc et Jean-Marc Ayrault, bien sûr, sénateur, maire de Nantes, en tête, hein, qui porte ce projet, ce caprice, si on peut dire, du bout des bras. Donc l'argument pour le moment, c'est vraiment la sécurité. Au fil des années, ça a évolué. Donc au début, c'était pour accueillir les gros porteurs. Après, c'était pour soulager les aéroports parisiens. Enfin bon, bref, il y a toujours une bonne excuse pour bétonner, pour donner de l'argent aux grandes multinationales du béton. Et maintenant, c'est pour la sécurité. Pourquoi la sécurité? Parce que survoler... Pour la petite histoire, ça c'est assez drôle, c'est que il y a beaucoup d'avions qui survolent Nantes, vraiment la ville, quoi. Et les gens ont peur, surtout quand on leur répète que c'est dangereux, tout ça, qu'un avion pourrait s'écraser sur eux. Et il faut savoir que depuis qu'on a... Les pilotes de ligne eux-mêmes ont dit ça commence à bien faire ces directives de nous obliger à survoler Nantes alors qu'il n'y en a pas besoin. Il y a beaucoup moins d'avions qui survolent Nantes. Voilà, donc il y a ça. Bon, il faut savoir que comme c'est un projet qui date aussi depuis 40 ans, ça a bloqué le développement, les investissements, les aménagements de l'aéroport existant, évidemment. Du coup, l'aéroport existant qui est très loin d'être saturé, qui ne le sera très certainement jamais, malgré les chiffres qu'on a fait dire, pour argumenter la nécessité d'un deuxième infrastructure. Donc là, non, c'est... Enfin, il n'y en a vraiment pas besoin, apparemment. Malgré tout ce que peuvent nous dire les élus, les aménageurs. Donc voilà, c'est bien le PS qui soutient ce projet.
Alors, oui, justement, sur ça, il y a l'État qui est derrière ça, c'est-à-dire, à l'heure d'aujourd'hui, l'État UMP. Et puis localement, c'est le PS, donc il y a une belle alliance. Quand on veut détruire l'environnement, finalement, gauche et droite s'entendent très bien.
Carrément, hein, on peut dire que là, ils sont assez d'accord sur pas mal de choses. C'est assez troublant. Ce qui est dommage, c'est que les Verts n'arrivent pas trop à...
Oui, il y a une opposition politique quand même.
Il y a une opposition politique, il y a le NPA qui est contre, il y a les Verts qui sont d'accord avec le PS, qui ne sont pas d'accord. Non, ils ont fait tout un meeting pour se mettre d'accord qu'ils n'étaient pas d'accord. Non, il y a une opposition politique assez... Oui, qui existe. Hein. Après, c'est vrai que c'est encore plus déprimant quand on voit que c'est du PS qui tire vraiment des projets pareils. Mais...
Le PS défend les centrales nucléaires, le PS défend les autoroutes, le PS doit aussi défendre les aéroports, ça paraît presque logique.
Bah oui, c'est vrai. Surtout qu'il en faut bien deux pour une ville comme Nantes.
Alors, on va revenir sur la mobilisation qui a eu lieu il n'y a pas bien longtemps. Il y a eu une grosse manif. On nous a parlé, alors nous, de Lyon, on ne se rendait pas bien compte, mais il paraît qu'il y avait des vélos, des tracteurs. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
Alors, c'est une manif qui a été mise en place par la coordination des opposants. Parce que donc le projet est vieux, la lutte est vieille aussi. Et les gens qui se mobilisent contre cette absurdité... certains sont mobilisés depuis très longtemps, d'autres depuis peu, et viennent de tous bords. Et la coordination donc rassemble donc les associations citoyennes qui sont là depuis le début, des associations qui sont créées au fur et à mesure, et les partis politiques, donc NPA, syndicats, toutes les organisations ont souhaité faire une journée, donc vraiment une journée forte de blocage de Nantes. Donc l'idée pour cette manif, c'était vraiment donc on veut bétonner le bocage. Et le bocage va descendre dans la ville, dans la grande mégalopole qui a besoin de. Et donc cette manifestation a été préparée avec une coordination des opposants qui n'a pas toujours été de tout repos, de mettre tout le monde d'accord d'horizons divers et variés. pour une grande journée qui se voulait quand même avant tout pacifiste. Et c'est important de ressortir ces mots qui se voulaient, voilà, enfin les familles, enfin des enfants et arriver vraiment converger sur Nantes en fait, dévaler sur la ville, parce que là ce qui est en jeu, donc bon, en plus de voilà d'une nouvelle infrastructure qui sert à rien, c'est aussi le fait que c'est directement des exploitations agricoles qui sont menacées. C'est du coup des terres agricoles qui sont vraiment nécessaires pour nourrir les êtres humains et qui a une mobilisation citoyenne et du monde paysan. Et donc là, l'idée, c'était de ramener le plus de tracteurs possible, de ramener un petit peu le monde paysan et tous les gens concernés dans Nantes. On attendait 10 000 personnes. Donc je n'ai pas vraiment de notion, je n'ai pas remonté non plus, je pourrais pas trop dire. C'est vrai qu'on pense qu'on a été quand même plus de 7-8 000. Il y en a certains qui pensent que les 10 000 personnes y étaient, malgré le matraquage donc de la ville, comme quoi cette manif allait être ultra dangereuse. Parce que s'il y avait 10 000 citoyens, on n'en est pas complètement sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 1500 forces de l'ordre, des canons à eau, des grilles anti-émeutes, l'hélicoptère non-stop, parce qu'il faut quand même retranscrire des manifestations de cette envergure par une vue aérienne, c'est très important. Et il y a eu un matraquage de dingue les semaines d'avant.
Oui, pour faire peur un peu aux habitants de Nantes.
Tout à fait. Bah, de toute façon, les habitants de Nantes, là, ils ont bien compris qu'il fallait être résigné, hein, que les travaux allaient commencer. Enfin, on croirait presque que les travaux ont déjà commencé, hein, alors que c'est prévu pour 2014, que le foncier est loin d'être... tout le foncier nécessaire n'est pas acquis. Mais non, là, il y a vraiment un matraquage de communication assez exceptionnel. Et le mot d'ordre, c'était effectivement la manif. Ouh là là, les opposants vont arriver en ville. Attention, ça va être le carnage. Donc, il faut un déploiement policier très important. Et c'est sûr que beaucoup de gens ont dû avoir peur quand même. Enfin, je sais pas si comment les gens réagissent à ce matraquage. Peut-être qu'ils commencent à se rendre compte que c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était quand même impressionnant la réponse policière de la mairie. Et le barricadage de la ville, et de savoir qu'il y avait plus ou moins un flic pour 3 manifestants, ça laisse songeur. Mais bon, sinon, ça s'est quand même relativement bien passé dans l'ensemble. Le cortège était chouette. Enfin, il y avait quand même plus de 200 tracteurs, plus de 300 cyclistes, je crois. Donc, dans un joyeux bordel, un bon Capharnaüm, plein de couleurs, plein de soleil, plein d'enfants, plein de chansons, plein... Enfin voilà, des gens déterminés quoi, beaucoup qui ont tout à perdre, hein. Que ce soit là où ils ont grandi, là où ils travaillent, là où ils vivent, les exploitations. Et il y a eu beaucoup de redécoration de la ville qu'il a bien mérité. Des dragons qui crachent de la peinture, des choses complètement hautement subversives, vous pensez bien, qui vaut bien une mobilisation policière à hauteur de tout ça. Et la fin de la manif a été très précipitée. Forcément, parce que ça leur plaisait pas trop qu'on occupe Nantes à la façon dont ils voulaient occuper le bocage. Voilà pour la manif.
On va parler de la vie de tous les jours, puisque toi, tu es sur le site qui est occupé, là où il y aura le futur bel aéroport avec ses magnifiques avions. Tu y es depuis un petit moment, tu vas nous expliquer comment ça se passe, la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Qu'est-ce qui a été mis en place? Raconte-nous un peu la vie quotidienne.
Alors, sur ce site, sur ces fameux 2000 hectares qui sont magnifiques, hein, un joli bocage. Donc, il y a encore des habitants qui n'ont toujours pas vendu. Il y a encore des agriculteurs qui y travaillent, il y a encore des vaches qui paient, qui montent de l'herbe, et il y a encore des champs qui sont cultivés. Et il y a aussi toute une population qui s'est nouvellement installée, vraiment en lien direct contre l'aéroport. Au niveau des terres occupées en squat, la première maison a été ouverte en 2007. Donc ça commence à dater un petit peu. Et là, il y a une grosse vague d'occupation suite au camp Action Climat qui avait eu lieu l'été 2009. Donc depuis 2009, c'est vrai qu'il y a maintenant une trentaine de lieux différents, de lieux de vie, avec des gens qui ont choisi donc de vivre là-bas directement. Donc soit dans des maisons ouvertes, les maisons qui ont été rachetées par le Conseil général depuis de nombreuses années, qui sont vouées à la destruction, ou alors juste des parcelles, des champs ou des friches à débroussailler pour pouvoir construire sa cabane en poêlette ou une petite cabane dans les arbres, des camions, des caravanes, toutes sortes d'habitats très confortables. Et donc ce sera très difficile de dire le nombre de personnes qui habitent là-bas, mais une bonne centaine, ça dépend. Voilà, qu'on choisit de vivre au jour le jour et pour occuper le terrain, pour montrer aussi qu'on peut faire autre chose de ces 2000 hectares. Pour montrer aussi et surtout qu'on est contre l'aéroport, certes, mais on est aussi contre tout le monde qui va avec. Parce que, c'est tant mieux si l'aéroport se fait pas, mais c'est chouette aussi d'avoir 2000 hectares, justement, merci Vinci, hein, de pouvoir nous mettre à disposition comme ça des terrains pour expérimenter plein de choses, plein d'alternatives, de façons de vivre complètement différemment. Voilà.
Alors justement sur ces alternatives, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des zones, dédiées plutôt à l'agriculture, d'autres à la fête?
Alors il y a un lieu d'accueil, donc c'est toujours les planchettes, même si la maison est expulsable depuis janvier là. Il y a plusieurs maisons qui sont expulsables depuis janvier d'ailleurs. Il y en a 8 qui sont expulsables depuis janvier sur la quinzaine qui sont occupées. Pour le moment, certaines avaient vraiment plus ou moins officiellement la trêve hivernale. Donc depuis le 15 mars, par contre, on n'a toujours pas d'expulsion en cours. Il faut bien savoir que de toute façon, le mot d'ordre, c'est que même s'ils nous expulsent, on revient. Voilà pour les maisons. Après, il y a pas mal de lieux qui ne sont pas en dur, où là, c'est un peu le flou artistique, à part à savoir que c'est à détruire en 24 heures en général, hein. Des constructions non normées, comme on va dire, surtout quand on est sur des terres de Vinci. Donc les lieux d'accueil de la ZAD, c'est toujours aux planchettes jusqu'à présent, où on trouvera pour les gens qui ont envie de passer quelques jours ou de venir nous rencontrer. Après, il y a des lieux plus ou moins dédiés à certaines choses. Il y a des ateliers vélo. Alors si vous voulez réparer votre vélo, vous allez à la Saulce ou à la Gaîté. Il y a la boulangerie, sans chaîne.
Parce qu'il y a des gens qui font leur pain alors.
Oui, on a un très bon boulanger. Ouais. Oh, c'est pas parce qu'on vit en squat qu'on mange mal. Hein. Oui, il y a la boulangerie. Il y a des maraîchers. Il y a pas mal de lieux qui ont leur potager à eux, hein, évidemment. Après, il y a des jardins collectifs. Donc il y a plusieurs parcelles qui sont cultivées collectivement pour, on va dire, des grosses cultures, genre pousser en gros les patates ou les courges, pour alimenter le supermarché, le free shop, aux planchettes, hein, au lieu d'accueil. Après, il y a un lieu qui a été créé par Reclaim the Fields, donc le mouvement de réappropriation des terres. Donc là, c'est du maraîchage, hein, c'est un hectare de maraîchage. La parcelle avait été défrichée, d'ailleurs, on l'avait bien entendu, hein, à Lyon, l'appel du 7 mai de l'année dernière pour défricher une parcelle pour installer un collectif qui s'appelle Le Sabot, et qui est très chouette, d'ailleurs, un lieu vraiment, vraiment chouette, avec un hectare de maraîchage. Donc pour tous les gens qui ont envie de mettre la main dans la terre, apprendre, faire partager ses savoirs. Voilà, après, il y a des lieux plus ou moins grands, plus ou moins petits. Pour la description.
Tu parlais du free shop, c'est quoi ?
Free shop, pardon, ouais, je parle anglais, excusez-moi. Les magasins gratuits. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs endroits où on peut se servir s'il nous manque des choses, comme des vêtements ou de la nourriture. Voilà, des magasins libres.
Pour que les gens vivent, par exemple ceux qui font du maraîchage, ceux qui ont leur propre jardin, j'imagine qu'ils arrivent à être à peu près autonomes. Pour les autres, comment ça se passe, la répartition? Il y a une quantité de travail à fournir pour avoir droit à quelque chose, ou c'est totalement libre?
En fait, on va dire que c'est totalement libre aussi, dans le sens où je disais tout à l'heure qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de lieux. Les gens vivent seuls, à deux, à trois, à quinze. Ils sont chez eux, en fait. Enfin voilà, donc ils vivent comme ils veulent. C'est vrai que on vit pas tout, du tout tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes idées. C'est pas parce qu'on est on est voisins quoi. C'est un grand village, mais non, voilà, il y a des espaces collectifs, des espaces privés. Enfin privés. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, des bulles d'intimité de chacun, de respect de l'espace de chacun.
Alors, comment tu vois les choses évoluer là dans l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la pression policière se fait sentir? Est-ce que comment tu vois les choses?
La pression policière est bien là. Ouais, non, là c'est vrai que ben, on l'a bien senti avant la manif. Hein, l'hélicoptère tourne quand même tous les jours au-dessus de nos têtes. C'est assez pénible. Hein. Il vole tellement bas qu'on a l'impression qu'il va se poser sur les caravanes, les maisons. Moi, j'ai l'impression que jusqu'aux élections, on risque d'être plus ou moins tranquille. Même si c'est vrai que ça les amuse hein, de faire sentir un peu la présence, monter la pression, tout ça, voir comment on va réagir. Après les élections, on verra bien. Moi, j'ai toujours dans l'espoir que de toute façon, ce projet il va capoter. J'imagine même pas qu'il puisse continuer. Ce sera sûrement pas pour les bonnes raisons. Mais il y a encore beaucoup de marge, donc. Non, enfin, puis en fait, quand on habite là-bas, on arrête un petit peu de se prendre la tête sur qu'est-ce qui va se passer, parce que de toute façon, on n'en sait rien, donc on va arrêter de... Enfin, les débats interminables sur alors, machin, truc, les travaux, ils vont commencer, ils vont pas commencer, ils vont ci, ils vont ça. Bon, ben oui, ils sont annoncés pour commencer. Pour le moment, on essaie de retarder le plus possible. C'est vrai, quand il y a des machines qui sont là, il y a toujours des gens pour les embêter. À chaque fois qu'il y a la moindre intervention, c'est vrai qu'ils sont obligés de venir avec 50 policiers systématiquement. Donc ouais, la pression policière, elle est là. Quand il y a l'huissier qui passe, il vient accompagner, quoi, ça c'est sûr. Et pas de gros bras. Là, ces derniers mois, c'était les visites du juge aux expropriations qui venait voir les parcelles de tous les agriculteurs qui refusaient encore de vendre. Et bah forcément, oui, ça, quand ils se déplacent, ils viennent avec beaucoup de monde. On essaye de ralentir la procédure par tous les moyens. Certains légalement parlant, avec les réunions publiques, en faisant des recours.
Sur le monde paysan, justement, comment ils se mobilisent? Est-ce qu'ils sont soutenus par certains de leurs syndicats? Alors, la FNSEA peut-être pas, mais j'arrive pas à imaginer en tant que citadin comment ça peut se passer dans le monde paysan.
C'est sûr que la FNSEA, on se passera de leur soutien, on va dire. Non, oui, la conf est là. Hein. Ils soutiennent. Ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent vraiment énormément de pression. Là, c'est vraiment exagéré, quoi. C'est les bureaux conseils de Vinci qui appellent tous les jours, voire tous les deux jours, des gens âgés de plus de 80 ans qui sont propriétaires de quelques hectares et qui... Enfin, voilà pour le. Enfin, ils ont une pression de malade. Après, je crois pas qu'il y a, à ma connaissance, il n'y a pas eu de pacte, de sermon main sur la bêche. Non, nous ne vendrons pas nos terres. Mais bon, il y en a quand même une poignée d'irréductibles qui résistent, qui disent non. On ira jusqu'à l'expropriation, donc jusqu'au tribunal. C'est pas évident. Enfin, c'est une démarche que moi j'admire vraiment énormément, quoi, parce que ce que les paysans reprochent de temps en temps aux squatteurs, tous les gens qui sont installés dernièrement là, vraiment sur les terres, c'est justement d'avoir beaucoup moins à perdre qu'eux, évidemment, parce que ceux qui ont à perdre, ben leurs racines, quoi, qui ont vraiment grandi sur ces terres, qui ont aussi bien la cellule familiale. Que l'activité économique, et c'est vraiment toute leur vie. Donc ouais, les enjeux sont énormes. Et on espère qu'ils tiendront, quoi. Jusqu'au bout.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas, car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise, et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération, le futur de la planète dépend de notre éducation.
conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques bon, au plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tu en on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus non-respect de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de la chance. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays, la disparition d'espèces animales et le fruit de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elles vont en accord avec les essais nucléaires. Non. Elles vont en accord avec la pollution des mers. Non. Apprécez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Rester en vrai que vie,
la révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette.
Radio Canine, la rebelle.
Donc, je suis avec Bertille. On va parler de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce lieu où se construit un aéroport et où, enfin, va se construire un aéroport et où il y a de l'opposition. Alors, tu vas peut-être nous raconter déjà comment toi tu as vécu cette manif du 24 mars 2012, il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé, l'ambiance?
C'était une manif super vivante, avec plein de créativité, plein d'initiatives. Il y avait des personnes qui faisaient des petites chorales, des gens qui s'étaient déguisés, des vélos tout décorés, donc quelque chose quand même d'assez festif. Et puis des inventions que j'ai trouvées vraiment géniales. Par exemple, il y avait un dragon genre carnaval chinois, nouvel an chinois quoi. Et en fait, j'avais pas bien compris à quoi il servait jusqu'à ce que je le vois qui s'approche en fait de la vitrine d'une banque. Et là, en fait, il crache de la peinture. Et il a recouvert complètement la vitrine de la banque de peinture. Et comme ça, ils ont refait en fait toute la place sur laquelle on était. Et voilà, c'était génial. À chaque fois que le dragon s'approchait et crachait, tout le monde criait. Enfin, c'était super drôle quoi. En même temps drôle et en même temps vraiment fort comme action quoi. Et il y avait aussi par exemple un isoloir collectif. Alors pareil, je l'avais vu en construction à la ZAD et je voyais pas trop à quoi ça allait servir. C'était une espèce de structure en bois de 2 mètres sur 1, dont les contours étaient recouverts d'un tissu. Et en fait, donc l'isoloir se posait quelque part, les gens rentraient à l'intérieur. Et puis après, l'isoloir bougeait et en fait, les gens avaient tagué complètement par terre, avaient mis plein de messages par terre, du coup de façon complètement anonyme. Voilà. Donc ce genre de truc, je l'ai trouvé très drôle et en même temps, une fois que la manif est passée, concrètement, les banques sont recouvertes de peinture. Par terre, il y a des messages de partout. Donc voilà, super, super chouette. Et puis ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de voir des gens qui venaient de milieux très différents, avec des potentiellement des stratégies d'action très différents. Genre les gars cagoulés d'un côté, les paysans en tracteur de l'autre, les familles, les vélos. Enfin voilà, chacun qui pouvait potentiellement être sur des oppositions en fait dans les stratégies d'action, et où en fait sur cette manif, il y a eu, je pense, un grand respect en fait de ce qui avait été décidé collectivement, c'est-à-dire d'éviter les destructions pour pas tomber dans en fait le piège qui était un peu tendu par la ville, par les médias et tout ça, où on attendait que ça, quoi, que y ait trois poubelles de cramer et que ça, qu'on puisse dénoncer une manif violente et tout ça. Et donc ça a pas eu lieu. Vraiment, c'était impressionnant de voir. Il y a des endroits de la manif où il y avait peut-être un tiers des gens cagoulés, mais voilà, ils faisaient des graffs et tout, mais aucune destruction. Et donc j'ai trouvé que c'était un beau, une belle convergence en fait des stratégies de lutte autour d'un objectif commun, et vraiment un super respect de d'une stratégie décidée ensemble, quoi. Et il y a un autre point que j'ai trouvé vraiment génial et très très puissant, ça a été la présence des paysans sur leurs tracteurs. Il y avait 200 tracteurs en fait qui étaient en avant de la manif, et ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est-à-dire que 200 tracteurs qui débarquent, ça a de la présence, et puis tout de suite je pense que pour les gens, voir que cette zone, elle est pas simplement tenue par des anars, mais aussi par des gens qui en vivent et qui sont soutenus par des paysans d'un peu toute la région, voilà, ça délivre un message assez fort. Et donc nous, on est arrivés en fait une dizaine de vélos au milieu des tracteurs, à devoir pédaler au rythme des tracteurs, donc à 25-30 km/h depuis Notre-Dame-des-Landes jusqu'à Nantes. Et là, il y avait, je crois, 300 vélos qui nous ont rejoints près de Nantes. Donc ces vélos qui attendaient en fait au passage des tracteurs et qui les acclamaient, et je sais pas, je sentais vachement d'émotion en fait de la part des gens qui voyaient ces agriculteurs débarquer, et puis de la part des paysans qui sentaient qu'il y avait un vrai soutien en fait à leur lutte, et que voilà, qu'il pouvait y avoir vraiment une solidarité entre les urbains et puis des gens qui vivent de ces terres là et voilà, c'était, je crois que c'était un moment assez fort en fait.
Tu vas nous parler un peu de ce que tu as vu là, sur le lieu futur de construction de l'aéroport, si jamais la victoire n'est pas au bout du combat. Comment tu as rencontré ces gens, comment ça s'est passé, les impressions que tu as eues?
Donc ouais, j'étais juste quelques jours là-bas, donc c'est vraiment une première impression que je peux livrer. Alors d'abord, c'est un paysage qui est magnifique. C'est un paysage de bocage, donc un beau paysage manufacturé avec une biodiversité qui s'est beaucoup développée depuis puisque les premières expropriations ont dû avoir lieu pratiquement au début du projet, et donc du coup depuis, il y a des endroits qui ont plus été cultivés, donc avec plein de richesses au niveau de la faune et de la flore. Donc c'est assez marrant de voir que voilà, ce projet en tant que tel a créé par les friches qu'il a mis en place une belle diversité. Et puis voilà, le bocage en tant que tel, les haies, etc. Enfin, c'est vraiment un beau paysage agricole. Et c'est très très étrange de penser que si la lutte ne va pas à son terme, tout ça serait détruit pour avoir du bitume et des pistes. Enfin, c'est assez inimaginable en fait quand on est là-bas. Et donc là, sur la zone qui est très grande, les gens se sont organisés en petits villages en fait, par groupes affinitaires, et ils habitent soit dans des caravanes, des camions, ou alors dans des cabanes, et puis certains dans des cabanes dans les arbres. Donc il y a eu vraiment des constructions super belles, avec évidemment du matériel de récup et puis du bois trouvé sur place. Et donc dans chaque petit village, il y a une ambiance différente selon les gens qui la composent, ce qu'ils ont voulu créer un petit peu comme mode de vie autour de ça, avec à chaque fois dans chaque village un lieu commun, une cuisine, un endroit pour être ensemble. Alors ce qui m'a paru un petit peu dur en fait, c'est surtout au vu de la rigueur de l'hiver qu'on vient de passer, c'est que par contre en termes d'isolation, j'ai vu aucun lieu qui semble habitable en fait par moins 10. Enfin sauf il y avait une baraque qui a été faite qui est vraiment très très belle, c'est la baraque du boulanger, où c'est une petite maison en paille en fait, magnifique. Et je pense que c'est, enfin de ce que j'ai vu, c'est le seul endroit où je pense qu'on pouvait raisonnablement survivre cet hiver, quoi. Le reste, ça a dû être vraiment très 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 rude, que ce soit dans les camions ou dans les baraques. Alors ils mettent il y a des petits poêles, hein, même dans les baraques qui sont à 10 mètres de haut dans les arbres, ils ont installé des poêles. Mais bon, c'est des gruyères, quoi. C'est des passoires, ces endroits. Donc j'ai trouvé que c'était très, enfin, des endroits très très beaux, des gens qui ont vraiment fait des habitats très chouettes et, enfin voilà, qui ont dû y mettre plein de compétences, plein de temps, d'énergie et tout, et penser que ça serait détruit, ça fait super mal au cœur. Et puis en dehors du lieu même, il y a évidemment tout ce qui se vit. Et avec des expériences de vie collective qui doivent être très riches. Alors ça, je les ai pas vécues beaucoup de l'intérieur, donc je peux pas vraiment en avoir une idée. Mais il y a quand même l'impression que c'est un lieu qui fonctionne bien. Moi, j'ai participé à une assemblée où j'ai été impressionnée par l'écoute qu'il y avait, puisqu'il y a quand même pas mal d'internationaux qui sont à Notre-Dame-des-Landes, notamment beaucoup d'Allemands. Et donc là, il fallait à chaque fois une traduction simultanée. Donc les gens étaient regroupés autour de quelqu'un qui traduisait en anglais. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une prise de parole, il y avait un temps de silence en attendant que la personne ait traduit en anglais. Donc du coup, ça faisait une assemblée très très lente. Moi, ça m'a fait penser dans Le Seigneur des Anneaux, quand les elmes, donc les grands arbres, doivent prendre une décision et l'assemblée, elle dure des heures et des heures. Mais du coup, voilà, ça donne un tempo comme ça très lent, ça donne une impression d'écoute. Quand on va être traduit, on prend pas non plus la parole pendant 10 minutes, donc j'ai l'impression que ça jouait aussi sur le fait, le respect de pas parler longtemps et de faire tourner la parole. Et puis, de ce que j'ai vu, voilà, des prises de parole respectueuses dans un essai de pas être dans la domination. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti du peu que j'ai pu voir. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Alors quelque chose qui m'a semblé aussi très difficile à vivre, c'est la présence oppressante de la police, qui en fait, alors là, en plus du fait qu'on était juste avant la manifestation, on a eu droit aux hélicos qui survolent la zone tous les jours en rase-motte, qui prennent des photos, et puis à des flics à tous les carrefours autour et dans en fait la zone. Cette présence, elle engendre une ambiance très très méfiante, où les gens ont tout un système pour s'alerter en fait quand il y a des flics qui débarquent quelque part, et où du coup c'est un petit peu en permanence qu'il y a des alertes, des bruits qui courent et de l'inquiétude en fait autour de ça, et voilà, ça fait des personnes qui sont tout le temps un peu sur la brèche, tout le temps prêts à aller intervenir pour aider tel ou tel lieu qui se ferait éventuellement déloger. Et je pense que ça pompe énormément d'énergie des gens au détriment en fait des autres activités qui seraient ne pas être dans une politique uniquement d'opposition, mais aussi être dans de la création, dans qu'est-ce qu'on fait, devancer en fait juste cette provocation permanente des forces de police. Et puis c'est aussi au détriment de cultiver, s'occuper de la survie en fait dans ce lieu-là. Et donc voilà, je me suis dit que ça devait être usant pour les militants qui sont là-bas, Et puis du coup, ça fait des personnes qui parfois sont un peu dans, on sent dans de la tension, dans y compris de la méfiance pour certaines personnes vis-à-vis des nouveaux comme moi qui débarquent. Voilà, on n'est pas accueilli à bras ouverts par tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont un peu dans une logique excluante en fait vis-à-vis de personnes qui sont pas squatteurs, qui éventuellement touchent un peu d'argent par du chômage ou du salariat ou autre. On peut vite se sentir ne faisant pas partie de l'élite, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains milieux et qui est vraiment dommage. À côté de ça, heureusement des gens super accueillants. On a rencontré des personnes qui notamment vraiment passionnées par le maraîchage, qui font qui sont dans de l'expérimentation dans ce qu'ils font, qui essayent des nouvelles techniques pour arroser moins, pour pas avoir à désherber, et là-dessus il y a aussi la présence de Reclaim the Field en fait. Donc il y a tout un réseau autour de Notre-Dame-des-Landes pour aider, pour récupérer ces territoires et faire de la production. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des motivations assez différentes pour les gens qui sont sur la ZAD, de ce que j'ai perçu, des personnes pour qui l'important c'est que ce lieu permette en fait, par le fait de squatter un espace, justement d'être dans l'expérimentation, soit au niveau de l'agriculture, soit au niveau de la vie en collectif. Et donc que ça puisse être voilà une espèce de marge qui soit créatrice de plein de choses, et puis des personnes peut-être plus rares finalement qui verraient cette idée de lutte contre un aéroport avec la question du pétrole, etc. Enfin, curieusement, c'est pas des discussions qu'on a beaucoup retrouvées. On a plus entendu des discours anticapitalistes sur le problème, que ce soit Vinci qui est le marché, que ce soit un projet d'expropriation des petits agriculteurs au profit d'une énorme boîte et tout ça. Donc plus ce type de discours qu'un discours de type écologiste, problème du pétrole, des transports, du transport aérien, du tourisme, de ce genre de trucs, quoi. Donc voilà, ça m'a un petit peu étonnée. En même temps, j'imagine qu'il y a aussi ces gens-là et que je les ai tout simplement pas rencontrés.
Alors, la ZAD, donc oui, on n'a pas précisé. La ZAD, ça voulait dire zone d'aménagement différé pour les aménageurs et décideurs. Et très vite, c'est devenu la zone à défendre, parce que, contre les expropriations, les expulsions en tout genre. Pour les agriculteurs, c'est devenu la zone agricole durable. Et puis, pour beaucoup d'autres personnes, c'est la zone d'autonomie définitive. Et on vous invite à venir voir de vous-même ce grand village. Il y a différentes rencontres. Là, en avril, du 9 au 15 avril, il y a une semaine de rencontres, d'échanges, de partage des savoir-faire. Donc, il y aura des ateliers divers et variés, autant sur fabriquer son éolienne que faire pousser ses semis ou je ne sais quoi, ou imprimer des magnifiques t-shirts. Donc, vous êtes tous les bienvenus à venir proposer des ateliers ou à participer et tout ça. Voilà, et sinon toutes les infos c'est sur zad.nadir.org, zad.nadir.org.
C'est bon, c'est frais.
Ça requinque et ça remet.
Radio Canu, la radio qui requinque.
Ça remet.
S'ils viennent nous expulser, nous, on revient.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet.
Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité.
Réacteurs EPR.
Lignes à grande vitesse.
Aéroports.
Gaz de schiste.
Et urbanisme galopant.
Rencontrent de plus en plus de résistance.
Mais politiques et entrepreneurs sont têtus.